Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Delphine au 3921. Bonsoir Delphine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Delphine et quel âge avez-vous ?
Alors j'appelle Doloron-Sainte-Marie, dans le sud-ouest, et j'ai 43 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Delphine, dites-moi ?
Alors il m'emmène que je suis... privée de mes enfants,
oui.
Mes trois enfants. Ça commence avec l'aîné à l'âge de 14 ans et maintenant c'est mes jumeaux qui aussi ont eu 14 ans et leur papa leur demande de choisir de façon autoritaire d'être chez lui. Quoi.
Alors, remontons un peu le temps et cette histoire, en fait. D'abord, vous avez eu ces jumeaux il y a 14 ans. Et ce dernier petit... non, il y a deux jumeaux de 14 ans, c'est ça, et un aîné de 16 ans.
Voilà. Enfin, maintenant, oui, 17 et 15.
D'accord. Depuis quand êtes-vous séparés, en fait, du père de ces enfants ?
Divorcé depuis 2012.
Depuis 2012, oui. D'accord. Ils avaient donc 6 ans, respectivement,
six ans et
8
ans.
D'accord. Oui. Comment s'est déroulée la séparation entre vous ? Entre le père et vous ?
Difficilement, monsieur n'a pas accepté. Monsieur n'a pas accepté. Ça a été un choix dur, hein, parce que lorsqu'il y a trois enfants, on ne part pas comme ça
bien sûr.
Du jour au lendemain. Ça a été assez compliqué. Mais il a fallu que je parte parce que j'étais sous cette emprise-là de cet homme.
Oui.
Voilà.
Comment vous la décririez, cette emprise ?
Autoritaire.
Oui. Il était violent avec vous ?
Verbalement, physiquement, ça peut arriver.
Mm-hmm.
Ça peut arriver devant les enfants aussi. Avec les enfants aussi. Voilà.
Et lorsque vous vous séparez,
qu'on se sépare, il se vide un bidon d'essence sur la tête en présence des trois enfants et dit on va tous mourir. Voilà. J'ai dit aux enfants courez à la voiture. J'ai posé une main courante à la gendarmerie, mais qui n'a jamais été retrouvée en fait. Voilà. Et donc on est parti pour aller chez ma sœur, se réfugier chez ma sœur. Qui ne me répondait pas. Donc, on est revenu au domicile. Mais ça a été... il y a des prises de colère, quand même.
Ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas... Déjà, d'emblée, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Lorsqu'il il se verse de l'essence sur lui, il avait déjà fait ça devant vous En
non.
tout cas, est-ce qu'il avait pas le bidon d'essence hein, mais est-ce que... il vous avait déjà menacé de se faire du mal, de vous faire du mal à tous si vous partiez ?
Non, parce que c'était là, quoi. Enfin, c'est quand je l'ai annoncé, quand on se séparait, quoi.
Les enfants ont vu tout ça ?
Les
bien
enfants
évidemment.
Ont vu tout ça, oui.
Ils ont eu très peur ?
Ils s'en souviennent encore.
Oui.
Voilà.
Et pourtant, mais... vous me dites que donc, aujourd'hui, il vous tourne le dos.
Aujourd'hui, il me tourne le dos.
Mais à l'époque, alors, comment ça se passe, le divorce ? Vous partez, vous arrivez à divorcer de cet homme et,
alors, du coup, on divorce à l'amiable.
Oui.
Voilà. À l'amiable, avec une résidence alternée semaine sur deux, des arrangements, parce que, bon, on dit que c'est bien comme ça pour les enfants... et puis les arrangements se font, puis la maison laisse là parce que tu sais, pour les enfants quand même, donc j'ai laissé la maison, j'ai pas pris ma part de la maison, tout passe par l'affect quoi en fait. Tout passe voilà, comme ça. Donc j'ai pas pris grand chose, la maison, il m'a ordonné de noter. Sur papier, ce que je prenais, ce que je ne prenais pas. Enfin, ça a été, voilà.
Et voilà. Vous avez accepté de laisser les enfants à l'époque, de lui laisser les enfants ?
Oui, j'ai décidé de lui laisser les enfants, parce que pour moi, les enfants avaient besoin, et aujourd'hui encore, hein, ils ont besoin de leurs deux parents
bien
pour
évidemment.
S'épanouir. Voilà.
Mais à cette époque, en fait, Delphine, vous choisissez de laisser vos enfants à la maison pour ne pas briser leur équilibre, pour qu'ils aient, qu'ils restent dans leur chambre, par exemple, qu'ils gardent leurs habitudes. Quelle est votre motivation de les laisser ?
Par contre, j'ai pris une location. Je les avais une semaine sur deux. On s'était arrangé.
D'accord.
On était passé au tribunal une semaine sur deux. Et puis, arrangement en plus. Des fois, ils en prenaient un pour les emmener au ski. Voilà, donc il y avait des arrangements possibles. Voilà.
D'accord. Donc ça dure combien de temps, en fait ?
Ça dure 3-4 ans.
Oui.
3-4 ans, donc j'ai essayé de refaire ma vie, mais il était présent tout le temps. Il venait laisser le petit quotidien tous les jours, la boîte aux lettres chez moi. Ça a été très compliqué. Donc, j'ai pas réussi à refaire ma vie en définitive. Et ce jamais, du coup. Voilà. Et puis, Sébastien, l'aîné, de savoir 13 ans, les jumeaux me disent « Maman, ça s'est pas bien passé avec Sébastien cette semaine. Papa l'a tapé dans l'escalier. » Ça a été très violent. Donc j'en ai parlé avec Sébastien. Et on a décidé de... avant ça, déjà, il y a eu une alerte. Hein. Il avait déjà touché Sébastien. Et je lui avais dit à mon ex-mari, droit dans les yeux, que ça ne se reproduise pas parce que je monterai au créneau, enfin, je n'irai plus au coin. Voilà, donc là, ça avait été assez violent. Après les jumeaux, et Sébastien m'en a parlé. Donc, nous sommes allés à la gendarmerie. Je ne connais plus le terme. Sa déposition m'a glacée dans le sens où il dit que son père lui a mis des coups de pied dans le ventre. Jusqu'à ce qu'il ne se relève plus.
Sébastien, à quel âge à ce moment-là ?
Il doit avoir 13 ans.
13 ans, d'accord.
13 ans, ouais.
Et là, à ce moment-là, vous les avez toujours une semaine sur deux, hein ?
Oui.
D'accord. Ça se passait plutôt bien
Alors, ça se passait plutôt bien parce que j'acceptais beaucoup de choses.
Oui, du genre,
mais
quoi ?
Mais du moment qu'ils les prennent pour aller au ski... d'inverser les semaines de vacances, enfin, voilà, ça se passait bien. Mais du moment où je me suis un petit peu opposée par rapport à cette violence faite à Sébastien, ça a été terminé.
Voilà. Ça a été terminé, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que il ne supporte pas l'opposition, il ne supporte pas qu'on s'oppose à lui, en fait.
Donc, lorsque vous dites que c'est ça a été terminé, c'est qu'il est devenu colérique, est devenu... méchant, agressif.
Il est venu filmer devant mon domicile. Je ne voulais plus qu'il rentre chez moi. Donc, il filmait devant mon domicile. Il a filmé mes voisins. Ça a été.
Il a filmé vos voisins, comment ça ?
Parce qu'en fait, j'ai demandé à la voisine de. Il hurlait devant chez moi. J'ai demandé à la voisine de sortir parce que. J'en pouvais plus, il faisait une scène devant chez moi. Et comme il filmait le fait qu'il y ait les affaires des enfants à l'extérieur du portail en me disant « Vous voyez, tout est au bord de la route. Enfin, » c'est un petit village où j'habitais à l'époque. Je dis à la voisine « Sors parce que j'en peux plus. » Il hurlait « Ouvre le portail, ouvre. » Alors que les affaires étaient à disposition. Il avait pris les enfants. Il n'avait plus qu'à récupérer les affaires et partir. Et il a fait une escandre, donc j'ai demandé à ma voisine de venir parce que aussi qu'il y ait des témoins, parce que des fois.
Elle devait avoir peur, la voisine, non ?
Son mari n'était pas loin.
D'accord.
Son mari n'était pas loin et il m'a avoué son mari à ma voisine. Heureusement qu'il avait son petit-fils dans les bras, sinon le téléphone, il lui écrasait par terre. Voilà.
D'accord. Donc vous avez eu peur ce jour-là, en fait ?
Oui, oui.
C'est là que vous avez commencé à avoir peur de lui, très peur ?
Non, j'ai toujours craint cet homme, en fait.
Alors, que se passe-t-il aujourd'hui ? Comment est-ce que...
Alors,
vous analysez le fait de voir vos enfants ne plus vous parler, hein, c'est ça?
C'est ça. C'est dur, en fait. C'est très dur.
Bah,
ça
oui.
a commencé donc par Sébastien, il y a 2 ans, pour l'achat d'un vélo, parce que mon fils fait du vélo course. Voilà, moi, je n'ai pas les moyens d'acheter. Monsieur a de l'argent. Soit, hein, c'est très bien. Cependant, il y a d'autres valeurs. Hein. Pour moi, il y a des valeurs éducatives aussi qui sont tout essentielles que d'avoir de l'argent. Mais il les achète, en fait. Donc, il a acheté un super vélo de route à Sébastien. Voilà, et donc... après ça, Sébastien est resté chez son papa.
Il n'a plus voulu venir chez vous ?
Non, il n'a plus voulu venir. Ça a été compliqué au début. Donc, Sébastien venait très arrogant à me dire « Je viens ici par obligation, pas par envie de te voir. » Donc, c'est arrivé que je le renvoie au domicile du papa. C'était insupportable parce que Sébastien aussi a pu être violent avec moi et avec ses frères.
D'accord.
Et donc, au bout d'un moment, c'est devenu aussi insupportable.
Il est devenu violent voilà. lui-même.
Oui, oui. C'est arrivé. Il y a eu des moments de violence avec Sébastien, oui.
Ça fait combien de temps, en fait, pour Sébastien ?
Là, il va avoir 17 ans, donc ça fait 3 ans.
Ça fait 3 ans maintenant qu'il ne vous parle plus du tout ?
Alors, non. Alors, malgré tout... Il continuait quand même à passer me voir de temps en temps.
Mmh.
Quand il passait pour ses entraînements de vélo, il passait me voir de temps en temps.
Et comment
là,
ça se passe quand il passait vous voir ?
Ça se passait bien. On prenait un moment, on goûtait, voilà, un moment convivial, hein,
mmh.
et tous les deux. voilà. puis le juge, puis donc il a demandé. Parce qu'en fait, tout ça s'est fait en dehors du jugement. Il a décidé de garder Sébastien. À un moment donné, j'ai sollicité mon avocate pour que monsieur essaye un petit peu de
d'arranger la situation.
D'arranger la situation. En fait, non, ça ne l'a pas arrangé. Et il en a profité pour le garder, en fait. Voilà. Donc, en fait, on n'était plus du tout dans le jugement de la garde alternée.
Oui.
Il avait décidé de prendre Sébastien. Il n'est jamais revenu, en fin de compte. Voilà. Donc, le juge a statué sur un week-end sur deux, la moitié des vacances, et Sébastien n'est jamais venu. Donc, j'ai déposé des plaintes. Mes jumeaux me disaient, ma maman, arrête, Sébastien ne reviendra pas, et puis on n'est plus tranquille sans lui. C'est quand même, dans une fratrie, c'est dur d'entendre ça. Voilà, mais moi je continuais parce que pour moi c'était clair déjà à l'époque que ce qu'il faisait à Sébastien, et dans mes plaintes je le signalais à chaque fois, il allait le faire avec les jumeaux. Je le sentais.
Oui, oui, vous le pressentiez.
Je le sentais. Mmh. Ouais.
Et c'est ce voilà. qui s'est passé au final.
Et c'est ce qui s'est passé en fait l'an dernier, au mois d'octobre, fin octobre, j'ai été hospitalisée en urgence. J'avais de l'eau dans la plèvre, donc j'ai été drainée dans un état quand même de santé très faible. Voilà. Et monsieur a reçu un courrier de la CAF pour une pension due par rapport à Sébastien. J'avais fait un dossier au mois de juillet, il est passé au mois de novembre pendant que j'étais hospitalisée. Et donc il a dit aux enfants. Ma sœur l'avait contacté la veille pour lui dire que j'étais hospitalisée et que c'était très grave. Et s'il pouvait garder les enfants la semaine suivante. Donc il a dit oui. Et quand il a reçu ce courrier, crise de colère, il a dit aux enfants, je ne vous garde plus à la maison, je vous mets dehors.
Votre mère a mis le bazar, il vous a fait porter le chapeau finalement.
Exactement, voilà. Alors pour moi, ce qui est d'ordre administratif, CAF, les enfants n'ont pas à être mis au courant, quoi. Voilà. Or, il ne sait pas faire la part des choses entre l'éducation et ce qui est de l'ordre des adultes. À mon sens, hein, on devrait laisser les enfants dehors de ce conflit-là, quoi. Voilà. Donc, les enfants m'ont appelé en pleurs, hein, à l'hôpital, avec mes drains en écoutant, en me disant « Papa nous met dehors », il ne pouvait pas parler fort, de crainte d'être entendu. Donc je disais à mon fils « Mathieu, parle plus fort ». En fait, il ne pouvait pas, il était dans la crainte, quoi.
Oui.
Voilà, après ça a été des SMS, comment on fait de ma maman. Donc j'ai envoyé un message à monsieur, lui demandant s'il pouvait garder les enfants. J'étais en incapacité de les prendre, j'étais hospitalisée. Il ne répondait pas à mes SMS. Et ça, ça a été très souvent, pas de réponse ni à mes mails, ni à mes SMS, ni sur l'orientation de Sébastien qui l'a décidé seul, enfin l'orientation scolaire, voilà. Très peu de coparentalité. Voilà, donc, vu qu'il ne répondait pas, j'ai fini par appeler mon avocate et dire qu'est-ce qu'on fait.
Oui.
Mes enfants, ils veulent les mettre dehors. Je suis à l'hôpital, je ne peux pas gérer la situation depuis mon lit d'hôpital.
C'était à lui de les garder à ce moment-là. Lorsqu'il dit je vous mets dehors, en fait, c'était sa semaine à lui ou c'était votre semaine?
C'était sa semaine, mais c'est initié. Je crois que c'était le jeudi.
Oui.
Et sa semaine se finissait le vendredi.
D'accord.
Je devais les récupérer.
Donc finalement, il savait que vous étiez hospitalisé, que vous n'alliez pas pouvoir prendre vos enfants. Et
oui.
Il a en toute connaissance de cause, fait semblant de vouloir les mettre dehors.
Oui.
Pour qu'ils craignent d'être à la rue complètement, puisque vous n'étiez pas à la maison. Donc,
oui.
Oui, c'est tordu quand même. Hein. C'est bien tordu.
Donc, dans le doute quand même. J'ai appelé mon avocate, je lui ai dit « qu'est-ce que je fais ? Mes enfants sont en pleurs, ils ne sont pas bien psychologiquement. » Et elle m'a dit « vous faites intervenir votre sœur et votre père. On ne peut pas les laisser dans ce domicile, ils sont comme ça. » Puis dans la crainte, quand même, ils sont...
D'accord. Est-ce que votre sœur et votre père, donc...
Donc, ils ont pris le relais.
Oui.
Voilà, ma sœur est allée les chercher. Donc, tout a changé, là. Les règles ont changé. C'était en général après la classe. Je récupérais les enfants et lui aussi. Et puis là, d'un coup, j'ai été à 18h au domicile de l'autre parent, sachant que ma sœur habite à 40 km de l'autre côté, mon père à 40 km de l'autre côté aussi. Ben voilà, il n'a rien fait pour aider. C'était, voilà. Et puis plusieurs événements, en fait. Il les a privés de vêtements. Alors qu'on était en confinement complet, on ne pouvait pas acheter de vêtements.
C'est-à-dire privé de vêtements pendant le confinement, je ne comprends pas.
Alors en fait, mes enfants ont toujours préféré les marques. Donc
oui.
J'ai beau acheter des vêtements de mon côté, qui ne sont pas forcément de marque, mais ils venaient toujours avec les affaires de chez leur papa. Voilà. Et là, il leur a dit « vous partez sans sac ». Donc ils sont partis sans vêtements.
D'accord,
donc,
je
ils
comprends.
Sont venus à mon domicile... ils ont cherché des trucs. Bon, il y avait des choses. Hein. Il y avait des choses au garage. Je leur ai dit, vous n'avez pas bien cherché. Il y avait de quoi. Mais ma sœur s'est retrouvée quand même dans l'embarras, à ne pas pouvoir acheter de vêtements. Donc, elle s'est débrouillée avec des amis à elle pour leur trouver de quoi se vêtir. Voilà, des manteaux, des trucs. Voilà.
D'accord. Bon, voilà, il a tout fait pour finalement... montrer à vos enfants que lui avait de l'argent, avait la capacité de les habiller, avait la capacité de leur faire faire beaucoup plus de choses que vous qui étiez moins argenté, en fait. Vous n'étiez pas capable de les habiller, en tout cas avec des marques. C'est bien ça.
Ouais, c'est ça. Mmh.
Comment est-ce que vous viviez ça, vous, en fait ? Est-ce que vous viviez ça, je dirais comment, pas tranquillement, mais... Vous ne rentriez pas dans ces provocations ou est-ce que vous êtes tombé dans le piège ?
Non, je ne rentrais plus dans ces provocations. Au début, oui. Au début, je suis rentrée. Puis, en changeant d'avocate, j'ai changé complètement d'attitude. En disant aux enfants qu'il y a des choses qui les concernaient, d'autres non. En les laissant un petit peu à l'écart. Papa a dit que si tu payes pas la moitié des scooters, eh bien on les aurait pas chez toi. C'est dommage pour vous, les garçons. Mais en même temps, j'étais pas pour les scooters et c'était une décision à prendre avec les deux parents. Voilà. Et puis j'ai juste dit c'est dommage pour vous. Voilà. J'ai pas non plus été consultée pour qu'il y ait des scooters. J'étais contre l'achat de scooters. Hein.
Oui, vous êtes en fait, vous étiez celle qui empêchait de tourner en rond et finalement, vous l'avez, ils vous l'ont fait payer, vos enfants.
Oui.
Quelque
oui.
part. C'est souvent, oui. C'est souvent avec ce genre de d'achat, en fait. Hein, en fait, ils achètent le parent qui attire les enfants à lui, c'est souvent par l'intermédiaire de ça, hein, de l'argent, de cadeaux dont ils vont être privés, en fait.
Oui.
Ils vont être privés s'ils vont chez vous, en fait.
Exactement.
Oui.
Alors, moi, ils faisaient avec des VTT, parce qu'ils sont vraiment proches. À l'époque, c'était au collège, là, ils sont au lycée, mais ils étaient vraiment proches du collège, donc ils allaient en VTT. Si jamais il pleuvait trop, je les emmenais moi en voiture. Voilà. Leur papa habite plus loin de Laurent. Donc c'est pour ça qu'il allait en scooter.
D'accord. Oui, donc bon. Vous étiez battue, hein, de toute façon, dans cette histoire, en fait. Avec des enfants, souvent, malheureusement, c'est comme ça que les choses arrivent. Et malheureusement, ils sont tombés dans le panneau. Résultat des courses, en fait, ils ne vous parlent plus du tout aujourd'hui ?
Alors, résultat des courses, il y a eu un jugement au mois de juin. La juge des enfants a quand même été outrée de la rupture des liens brutal comme ça. Par contre, le juge des affaires familiales a été plus radical et a prononcé des visites médiatisées sur Pau, donc à 40 km de chez moi, deux samedis par mois. Au départ, c'était un samedi par mois. Mmh. Il est passé à deux samedis par mois. Pendant l'audience, il m'a demandé ce que j'en pensais. Sinon, je demande le retour de mes enfants en résidence alternée, parce que je me souviens avoir dit à Mathieu quand j'étais à l'hôpital, je ne les priverai pas de leur papa. J'avais besoin des deux parents, donc j'ai dit au juge, je ne souhaite pas priver les enfants de leur papa, je redemande la résidence alternée. Voilà, donc j'ai eu le droit en fait à deux visites par mois, enfin samedi sur deux, sur Pau, depuis le mois de juillet.
Deux visites, qu'entendez-vous ? Deux visites sous l'œil de...
Oui, sous l'œil d'un tiers.
D'accord. Donc dans un foyer ou en tout cas un endroit où il y a un éducateur ou qui
plusieurs,
vous surveille.
Plusieurs intervenants. Et à chaque fois, c'est pas le même, en fait. Voilà. Et à savoir que...
Comment parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, en fait, Delphine. Comment, à un moment, vous perdez complètement la garde des enfants, en fait ? Comment ça arrive, ça, cette décision que vous n'ayez plus le droit de voir vos enfants quand visite c'est une mesure éducative, hein. Comment il arrive à cette décision qu'un juge va prendre contre vous ?
Je ne sais pas. Je ne comprends pas.
Vous avez bien été confronté à un moment à un juge des affaires familiales. Enfin,
oui.
On va continuer à en parler. Réfléchissez bien à justement aux dates, à tout ce qui s'est passé à ce moment-là et l'objet, hein, de ces mesures, en fait, ce qu'on a pu vous reprocher. Et puis on en reparle juste après l'info, d'accord ?
Oui, d'accord.
À tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Mmh. 23h passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Si vous nous rejoignez maintenant, jusqu'à 1h du matin, chers amis, vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. En attendant, nous sommes avec Delphine. Delphine qui nous parle de cette aliénation parentale progressive qui l'amène aujourd'hui à ne voir ses enfants qu'en visite médiatique. Comment appelle-t-on ces visites, Delphine ?
C'est des visites médiatisées.
Médiatisées, je n'étais pas sûr, alors j'avais peur de dire une bêtise. Ce sont des visites médiatisées, donc sous l'œil
d'un tiers
qui est souvent un éducateur.
Oui.
D'accord. Donc, je vous demandais avant le journal, qu'est-ce qui avait amené à cette décision ? Il y a eu, bien évidemment, sans doute les dires de cet homme, hein, du père des enfants, mais ça ne vous est pas tombé comme ça. Vous avez été convoqué devant une juge, je suppose,
oui,
ou un juge.
Oui, monsieur demandait la carte des enfants, comme pour Sébastien il y a 3 ans.
C'est-à-dire
la garde exclusive.
D'accord, ok. Il demande la garde exclusive. Et pourquoi, en fait, il motive cette demande avec quoi ?
Cette demande parce que ma soeur a fait, lorsqu'elle a accueilli mes enfants n'allaient pas bien du tout. Monsieur ne répondait pas au téléphone. Elle demandait des vêtements. En fait, il ne répondait pas. Du tout au téléphone. Il était tellement envahi de colère, hein, par ce papier de la CAF qu'il avait décidé de ne plus répondre. Donc,
d'accord.
Ma soeur se disait, mince, si j'ai un problème avec les enfants, je ne sais pas vers qui me tourner. Je n'ai pas de vêtements, ils n'ont pas leur téléphone portable, donc du coup, ils étaient aussi socialement un peu coupés de leurs copains et tout ça. Alors qu'ils étaient aussi dans un état d'esprit où j'étais hospitalisée avec une maladie grave.
Oui.
Donc, ils n'étaient quand même pas très bien. Les conditions de retour, comme je vous l'expliquais, au domicile de notre parent, avaient changé. Et ma sœur, du coup, a décidé de faire une information préoccupante auprès de l'ASE avec des faits très factuels, c'est-à-dire... enfants qui n'ont pas de vêtements, pas de téléphone portable, j'appelle monsieur, il ne répond pas, et puis changement de garde et drive d'enfants, en fait, parce qu'en fait, il n'éteignait même pas le moteur, les enfants montent dans la voiture, ils disent à peine au revoir, hein. Et c'est vraiment un drive, quoi, c'est. Voilà, et ma soeur, ça, elle a choqué. Elle travaille dans le social. Et ça l'a vraiment choquée, quoi. Que les enfants soient déjà pas bien par rapport à mon état de santé, et qu'il se passe tout ça, voilà.
D'accord. Donc, là...
Donc, par-dessus, cette information préoccupante a rendu monsieur encore plus en colère.
Oui. Oui, il a... Ça l'a préoccupé plus que normal, en fait.
Mais en fait, en peu de temps, c'est-à-dire qu'avec ma sœur... on n'avait pas malheureusement une relation très, très régulière, hein. On appelait de temps en temps. La maladie a fait qu'on s'est beaucoup rapprochés. Et le fait qu'elle aille récupérer mes enfants sur un très, très court temps, en fait,
oui.
Sur 8 jours, hein, elle s'est rendue compte du dysfonctionnement quand même qui était là, quoi. J'ai dit à ma sœur après coup, c'est ce que je vis depuis des années, Céline. Des non-réponses par téléphone, ni par mail, ni par SMS, ne pas connaître l'orientation de mes enfants, ne même pas signer les documents.
Oui, il nie votre existence, il nie votre autorité, il nie ce que vous êtes, et il habitue ses enfants à vous nier. C'est un travail de sape, hein, régulier, tout le temps, en fait. Hein, c'est tout le temps, en fait. Je pense que cet homme n'a jamais eu de cesse de vous critiquer, de salir votre image, en tout cas la perception que vos enfants avaient de vous. Et puis, de l'autre côté, en fait, il leur achetait vélo, scooter, marque de fringues. Bah, à un moment, les enfants, quand ils voient que maman est malade, que maman ne peut pas s'occuper d'eux, que maman est celle toujours qui crée des problèmes, et maman qui ne peut pas nous acheter les dernières baskets ou le dernier scooter, alors que papa, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il est gentil, hein. Donc ouais, on lui pardonne d'être...
Hein, on lui pardonne... Sur mon lit d'hôpital, quand même, je fais des click and collect pour leur acheter des chaussures de marque.
Non, mais Delphine, je ne suis pas du tout en train de vous reprocher quoi que ce soit. Hein.
Je suis en train
de décrire le piège.
Je fais ce que je peux avec comme je peux. Quoi.
Bien évidemment, bien évidemment. Et pour lui, c'était un boulevard, vous voyez, une autoroute. Et bon, ce qui est regrettable, en fait, c'est que vos enfants soient tombés dans le panneau et que... Parce qu'ils auraient pu influer la décision de là ou du juge. Je ne sais pas si c'était une femme ou un homme qui a décidé, mais tout de même, vous infligez deux visites par mois sous l'œil d'un éducateur. Il faut vraiment qu'il ait raconté des choses très graves. Voilà.
Et, oui, bah, en plus, j'ai un cancer, quoi.
Oui, c'est fou.
Mes jours sont comptés.
Ils le savent, vos enfants, ça?
Ils le savent, mes enfants, ils le savent. Ils le savent, et je l'ai dit devant le juge, que chaque jour passé sans mes enfants, c'était du temps perdu. Aujourd'hui, la maladie était là, mais je ne savais pas demain. Voilà. Mais,
Le juge savait que vous étiez très malade?
Oui. Et oui.
D'accord. Vous lui avez raconté ce travail de sape, ce travail de dénigrement mis en place par votre...
Et
comme d'habitude, en fait...
Malgré tout, ne vous a pas écouté. J'ai le droit qu'à ses visites.
Pardon ? Voilà.
Malgré tout, j'ai le droit qu'à ses visites.
Ouais.
Une heure, en fait. Ça dure une heure.
On va prendre Cécile au téléphone, avec qui nous avons déjà échangé. Bonsoir, Cécile.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai lu votre
SMS... vous me disiez que vous viviez exactement la même chose, que le JAV vous avez aussi privé de vos deux enfants. Vous vivez une situation similaire à celle de Delphine. Que vous inspire la situation de Delphine, Cécile?
J'ai l'impression de m'entendre, et puis je partage complètement ces difficultés. Je vis exactement la même chose, des décisions complètement aberrantes, basées sur... sur des faits que leur père a certainement relaté, et d'un seul coup on décide que vous n'êtes pas une mère suffisamment équilibrée pour vos enfants, on vous les enlève, voilà. Et on, effectivement, comme votre auditrice, on passe devant le juge, la juge nous juge sans avoir de base, en fait, parce que il est marqué nulle part que je suis une mauvaise mère, et pourtant il suffit que le père l'ait dit pour que ce soit acté, et que voilà. Et pareil, je suis suivie en AEMO, et puis j'ai la DPJ.
Qu'est-ce que c'est tout ça, l'AEMO? Expliquez, parce que tout le monde...
C'est justement des actions en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'on
des
voit ses enfants...
Des aides éducatives en milieu ouvert.
Voilà, une aide éducative en milieu ouvert. Et jusqu'en juin 2022, j'ai la DPJ, qui est l'association de défense et de prévention jeunesse, qui en fait ont un dossier sur nous, c'est-à-dire mes enfants et leurs deux parents. Donc voilà. Mais bon, moi, contrairement, c'est un petit peu similaire, parce que j'avais témoigné deux fois chez vous pour un autre sujet, mais finalement le résultat revient un petit peu à la même chose, parce que on a des profils d'hommes.
Manipulateurs,
colériques, de grands manipulateurs, violents, abuseurs. Et mon histoire est complètement différente, mais le sujet dont on parle ce soir, c'est quelque chose que je vis aussi. Du coup, à cause de perdre mes enfants, moi j'ai une histoire un petit peu particulière. Mais c'est-à-dire que ces hommes-là parviennent à convaincre des services sociaux, convaincre des juges, à convaincre.
C'est ça,
ils ont le bagou, ils ont le.
C'est ça la question.
Les caméléons, en fait, devant les services sociaux, ils passent pour des hommes parfaits. Et puis, c'est nous les folles, quoi. C'est nous les paranoïaques.
Exactement.
Nous...
Moi, j'ai été qualifiée voilà, de délirante paranoïaque, comme ça, sur des dires.
Alors...
J'ai jamais passé de bilan psychiatrique, rien. Il n'y a aucun médecin qui a pu acter que je sois délirante paranoïaque.
Alors, moi, j'ai une question à vous poser à l'une et à l'autre. Avant, je vais répondre à Mamie Tam Tam, qui nous écrit que... en fait, qu'elle ne comprenait pas dans le témoignage de Delphine, visiblement, Mamie Tam Tam ne comprend pas qu'il y avait des vêtements chez la maman. Delphine l'a dit, il y avait des vêtements chez elle, mais des vêtements qui n'étaient pas des vêtements de marque, en fait. Donc le père.
Oui, mais
de
les enfants sont. Moi, c'est pareil, les miens ont 12 et 15 ans.
Oui.
Donc un peu plus jeune hein, que ceux de Delphine. Simplement, c'est les enfants en fait, ils vont vers le, enfin où le vent les emmène. C'est-à-dire que si chez leur papa il y a des ordinateurs, des téléphones, des vêtements de marque, ils vont aller plus facilement vers le papa.
Oui,
moi,
je suis
dans une situation financière comme Delphine, c'est-à-dire que je peux
après,
pas offrir de cadeaux à mes enfants.
C'est une situation qui marchait comme ça depuis longtemps. Hein.
Ça marchait parce que ce monsieur en était satisfait et qu'il l'avait peut-être décidé.
Oui.
Voilà. Mais dès qu'on s'oppose à ces gens-là, voilà.
Et les éducateurs leur disent, mais enfin, vous auriez pu prendre vos affaires puisque ça marchait bien comme ça.
Alors,
en fait, ils ont été contraints de les prendre, quoi.
Alors, Delphine, je vous interromps un instant. On va marquer une petite pause. On va se retrouver dans quelques secondes. Et Mamie Tam Tam n'avait pas compris. Mais bien évidemment, Mamie Tam Tam, il y avait des vêtements chez Delphine. Mais les vêtements que Delphine achetait n'étaient pas obligatoirement des vêtements de marque. Mais il y avait bien évidemment des vêtements chez Delphine. Voilà, c'est pour répondre à Mamie Tam Tam qui nous a écrit un SMS au 739-21 parce qu'elle n'avait pas saisi, je pense, l'histoire des vêtements. On se retrouve dans quelques secondes, Delphine et Cécile. À tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739-21. 75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h16 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et bien évidemment vous pouvez continuer à appeler le 3921 ou nous écrire au 739-21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace comme vous le faites nombreux et nombreux comme chaque soir. Jean, Cécile, Claude, Charles, Irène, Stella qui commente bien évidemment et qui pose cette question en fait, mesdames. En combien de temps cette décision a-t-elle été prise? Alors, je suppose que ce qu'ils veulent dire, tous ces gens-là, c'est la durée de l'audience qui a défini que vous n'étiez plus assez responsable pour avoir la garde de vos enfants et non seulement ça, ne plus voir vos enfants qu'en visite médiatisée et donc sous le regard d'un tiers, comme dit Delphine. En combien de temps? Alors, pour que vous ne parliez pas toutes les deux en même temps, je vais demander d'abord à Delphine.
Alors moi, ça s'est décidé au mois de juin.
Oui.
Les visites médiatisées ont commencé au mois de juillet.
Oui, mais dans le cabinet du juge, je voudrais savoir combien de temps vous êtes resté.
Je ne sais pas, une petite demi-heure.
Une demi-heure, d'accord. Et vous, Cécile?
Alors moi, il y a eu aussi une information préoccupante concernant ma fille en décembre 2020 de la part de son collège. Donc, suite à ça, il y a eu une enquête des services sociaux et mon cas ensuite est monté au CRIP, c'est-à-dire ensuite à la DPJ et au tribunal, bien sûr. Et j'ai été en audience au tribunal au mois de juillet. Et c'est là qu'a été décidée
la visite médiatisée.
Voilà, la EMO et puis la DPJ qui était en charge
du
dossier. Quoi.
Mais cette audience,
voilà,
en fait, a duré combien de temps d'abord?
Oui, comme Delphine, c'est-à-dire que une demi-heure.
Une demi-heure. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous défendre, de communiquer?
Non.
C'est-à-dire, j'entends Anne dans l'enquête préliminaire. Est-ce que vous avez eu l'impression que tout était à charge?
Le problème, c'est que moi, j'ai tenté de pointer du doigt les dysfonctionnements du papa avec colère, avec détresse. Et finalement, au bout du compte, je suis passée pour une délirante paranoïaque.
Et vous, Delphine?
J'ai rapporté une rédaction de Mathieu au niveau du juge des enfants. Donc, je pense que le JAF en a une connaissance aussi, où il parlait justement qu'il devait faire un choix entre ses parents, que pour lui c'était impossible, qu'il nous aimait à tous les deux. Donc je me suis quand même impliquée pas mal, même sur des SMS échangés avec les enfants lorsque j'étais hospitalisée et qu'ils me disent « Papa nous demande de faire un choix, on doit lui donner une réponse pour mercredi ». C'était des choses quand même aberrantes.
Ça, vous l'avez communiqué au juge, on est d'accord?
Je l'ai communiqué au juge parce que ça me semblait des preuves tangibles.
Mais c'est une preuve, en tout cas évidente, qu'il y a chantage et pression sur les enfants.
Oui, alors ceci maintenant m'est reproché par mon fils Mathieu, par mes enfants.
Oui, bien sûr.
Voilà, parce qu'en fait, monsieur a donné les pièces du dossier aux enfants. Leur a dit, votre mère, elle a donné ça. Il s'est qu'envenimé la situation. Donc là, mes enfants, on est sur une reprise de lien avec la VRM. Mais en fait, plus le temps passe, et plus ils se détachent de moi.
Non, ils ne se détachent pas en réalité. Ils ne se détachent pas, mais...
En tout cas, momentanément.
Ouais.
Mais est-ce que vous avez eu l'impression... que c'était à charge, tout ça, en fait.
Si je peux, moi, intervenir juste deux minutes, c'est que le jour de ma convocation au tribunal, mes enfants ont été convoqués également. Déjà, je trouve que ce n'est pas leur place. Et ils ont été pris à part l'un et l'autre. Et la seule question que la juge leur a posée, c'est « Est-ce que vous pensez que votre maman est malade ?» Donc, je trouve ça grave, très, très grave, parce que aucun médecin ne m'a diagnostiqué la moindre maladie. Et on ose poser à des enfants de 12 et 15 ans, leur demander « Est-ce que votre maman est malade ?» Enfin, je trouve ça fou. On est quand même au tribunal. On n'est pas, on n'est pas dans un cabinet ou chez un psychologue ou un thérapeute. On est devant un juge qui pose ce genre de questions aux enfants. Sans avoir de rapports médicaux comme quoi je suis potentiellement malade. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ensuite, les enfants... Bon, moi, pareil, je rejoins Delphine. C'est-à-dire que le papa... En fait, je n'ai pas du tout la même histoire que Delphine. Simplement, l'une et l'autre, nous avons été dans un état de faiblesse. À un moment, moi, pour des raisons différentes, Delphine, pour des raisons de maladie. Et ces personnes-là, je profite de ce moment de faiblesse
pour
tout nous mettre à charge, en fait. Ouais. Et pareil, moi, le papa a sorti des messages, parce qu'il a le don de pousser à bout par des moyens très, très subtils. On pète un plomb parfois, et bien sûr, il sort ces passages-là. Donc pareil, même chose, il utilise des choses qui sont à charge et que les juges, par manque de temps, par manque encore, je pense, de formation, n'ont pas le temps d'enquêter, en fait, sur tout ça. Ils ont des éléments qu'ils lisent, ils vont pas chercher le contexte dans lequel ces choses ont été écrites, le moment à laquelle ça a été écrit. Donc, ils prennent froidement ce qui est écrit. Ils ont conclu que la maman, elle est instable ou qu'elle est délirante paranoïaque, etc. Mais ils vont pas plus loin parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont d'autres dossiers, parce que ça défile, parce que et résultat, des mamans comme Delphine et moi sommes privées de nos enfants. Moi, je les vois une fois par mois. Et alors que je les ai élevés 12 ans, le papa travaillait, moi je les élevais. Et aujourd'hui, j'en suis complètement, on me les arrache. Donc, on est impuissante face à un juge. Le juge dit, on a beau se défendre, plus on se défend. Bon, moi, en plus, je ne suis pas accompagnée par un avocat, donc c'est encore plus difficile. Mais finalement, plus on se défend, comme le papa a déjà bien creusé le trou, plus on se défend, plus on passe finalement pour une maman instable, alors qu'on est juste en détresse, quoi. On est juste, voilà, on est en perdition. En mais pas cas, parce qu'on est instable, parce qu'on est privé de nos enfants.
On peut voir ce soir, à travers vos deux témoignages, que beaucoup de pères, de mères, se retrouvent souvent, au final, comme lâchés, avec cette impression d'être lâchés par la justice, d'être tout petit face à finalement une justice qui tranche, mais qui ne tranche pas avec tous les éléments. Elle ne tranche généralement, on entend beaucoup trop ça sur cette antenne, elle tranche généralement avec les éléments que le plus fort a fournis. J'entends par là que celui qui a le plus d'argent, finalement, c'est une histoire d'argent. Parce que quand on a de l'argent, on peut se payer un bon avocat et puis on peut d'un seul coup monter un dossier beaucoup plus solide que lorsqu'on a un cancer ou lorsqu'on est à la limite de la précarité et qu'on n'a pas d'argent pour se payer un bon avocat. Même s'il y a des avocats
commis d'office. J'ai une très bonne avocate, j'ai l'aide juridictionnelle, j'ai une très bonne avocate qui compte et qui a aussi plaidé pour l'aliénation parentale. C'est ce qu'elle a dit aux gens.
Mais elle n'a pas été entendue, visiblement.
Mais elle n'a pas été entendue. Le problème en France, c'est que l'aliénation parentale n'est pas reconnue.
La manipulation n'est
pas reconnue. C'est pas reconnu. Au Canada, c'est très bien reconnu. En France, pas du tout. En France, on a un dossier. Moi, mes enfants ont été entendus deux fois au niveau du JEF. La première fois, donc, pour Sébastien, la violence faite sur Sébastien l'aîné. Où monsieur a convoqué les trois enfants la veille de l'audience, il dit ça, ça et ça.
Comme ça, c'est réglé.
Et les adultes autour d'eux font la même chose. La grand-mère, qui était éducatrice, la grand-mère de mes enfants, paternelle, a dit à mon petit, qui à l'époque avait 9 ans, je crois, il dira juste que ta mère est une conne. Non mais... Franchement, quoi. Et le petit est arrivé en larmes, il m'a dit « Maman, faut que je te dise, mamie m'a dit de dire ça au juge. » Et je ne comprends pas humainement comment il n'y ait aucun adulte entre l'épouse de monsieur, la grand-mère, toute la belle famille autour de monsieur. Comment il n'y ait pas un adulte là-dedans qui dise « Ça suffit ».
On pense à l'équilibre des enfants. Je pense qu'il n'y a pas un adulte qui pense à ça. Voilà. Parce que vous souffriez, bien évidemment, c'est très problématique. Mais,
oui, mais on gère, nous. On gère mieux qu'un enfant.
Vous êtes adulte, les enfants.
On gère avec des antidépresseurs et des anxiolytiques. Moi, j'en ai eu l'un, mais bon, je gère un peu comme ça. Aujourd'hui, j'ai eu l'éducatrice qui me dit que je suis trop dans le fait que je suis dans l'aliénation parentale. Mais de toute façon, on est dans ça. Et on était dans le même cas de configuration pour Sébastien. Donc voilà, les marques. Un vélo chez Decathlon, c'est pas de la qualité. Enfin, c'est des trucs comme ça que je me suis entendu dire.
En tout cas, ce soir, nous aurons vu ce soir, à travers vos témoignages, mesdames, qu'il y a encore bien évidemment beaucoup de progrès à faire et il faut surtout revoir ces règles de justice et les lois, les règles qui gèrent ces conflits parentaux et avoir plus de moyens, de temps, d'argent, donc pour ces juges pour instruire.
Et des progrès dans les délais, je dirais aussi.
Exactement. Attendez, on va faire une petite pause parce que j'ai mon réalisateur qui doit, lui, il a des consignes aussi. Donc on fait une petite pause et puis on revient tout de suite après, d'accord ?
Oui.
À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
23h29 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez toujours appeler le 3921, bien sûr, ou nous écrire au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous me disiez quoi, Delphine ?
Je disais que les délais étaient énormes, quoi, en fait. L'éducatrice du CIAE, donc de l'aide éducative en milieu ouvert, devait rendre ses conclusions avant l'audience de la semaine dernière, qui avait lieu mercredi. Elle les a rendues lundi.
Donc pour la défense, c'était un peu compliqué
oui.
de voir mon avocate et tout ça. Et il y a un report d'audience au 12 janvier.
Ben oui, mais tout ça encore fait partie du nombre de dossiers, de la pression qui est exercée sur les magistrats comme sur les travailleurs sociaux parce que finalement, ces gens croulent sous les dossiers. Et malheureusement, tant qu'on n'aura pas réfléchi à légiférer tout ça, à refondre tout ça, à réformer, c'est le mot que je cherchais, eh bien, on aura toujours des situations où malheureusement, encore une fois, ce sont, je dirais, des familles entières qui finalement prennent un coup. Parce qu'on évoque les enfants, mais il y a les parents, bien évidemment, vous, les grands-parents. Il y a toute une famille qui est impactée par une décision. Alors, je ne dis pas pris à la va-vite, mais je le dis presque, quand même. Et j'assume ces propos la semaine dernière, où je crois que, oui, c'est ça, la semaine dernière, il y avait 4000 magistrats qui ont signé une tribune, je crois que c'était en Libération, pour évoquer ces problématiques de moyens et d'argent, et qui disait refuser désormais de juger à la va-vite les dossiers qu'ils avaient en charge. Donc, ça n'est pas moi, Olivier Delacroix, qui le dis ce soir, c'était 4000 magistrats, la semaine dernière, des juges qui s'en plaignaient. Donc, c'est une réalité pour la justice familiale, mais pour toutes les juridictions, finalement, on ne peut pas demander à tous ces gens de bien travailler en leur collant dossier sur dossier et qu'il n'ait pas le temps. Ben, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est une réalité. C'est
non,
Cécile
c'est
qui
pas,
dit ça ou Delphine
oui, parce que c'est Cécile.
Oui.
En fait, je suis, moi, depuis un an, dans les procédures pénales, les procédures administratives, etc. Et je pense que c'est pas une question de moyens et de temps. C'est une question de procédure. C'est-à-dire que là, moi, je prends un cas. Je suis par ailleurs en procédure de divorce avec quelqu'un qui se présente pas pour des raisons que je vais pas évoquer ce soir. Il y a eu 5 renvois. Donc ça veut dire 5 renvois, c'est 5 déplacements de mon avocate, c'est 5 matinées qu'elle à attendre pour passer, etc. Enfin,
c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait réformer.
Procédure.
Oui, mais c'est pour
mais
ça.
C'est pas une question de moyens. C'est-à-dire
mais non, c'est aussi une question de réformer, Cécile. Réformer.
Oui, voilà. C'est-à-dire que dans un cas de divorce, il y a un renvoi. Si la personne ne se présente pas la deuxième fois,
et
c'est
ben voilà.
Stop.
Et ben voilà. Mais dans d'autres pays,
les dossiers sont traités à la va-vite de cette façon. C'est pour ça que c'est traité à la va-vite, parce que les procédures sont tellement lourdes que le temps manque et que les avocats, parfois, passent des journées à attendre de passer pour un quatrième renvoi de quelque chose qui va être renvoyé une cinquième fois. Donc, c'est vraiment une question. Donc, tout est traité vite parce que, justement, ces procédures sont ultra lourdes.
Exactement. Exactement. Elles sont lourdes et c'est pour ça que je parlais de réforme parce que, comme vous le dites si bien, on ne se présente pas une fois à son procès. C'est un devoir de se présenter à un procès. Si, si vous ne vous présentez pas la première fois, la deuxième fois, si vous n'êtes pas là, eh ben, vous êtes jugé comme on juge des gens par contumace, comme on le dit, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas présents. Tant pis pour eux.
C'est exactement ce qui s'est passé pour mon fils aîné. D'ailleurs, c'était la première vague du Covid. Mon avocate m'avait dit de rester à la maison, que c'était les avocats qui représentaient les parties au vu de l'épidémie. Monsieur y était. Moi, je suis restée à la maison.
Voilà.
Vous voyez, c'est quand même énorme. Hein. Mm-hmm. Donc, monsieur brave en plus les consignes, quoi.
Oui, mais on ne lui a rien dit. Il a assisté.
Et on ne lui a rien dit.
Bon, ben voilà.
Il a assisté à l'audience. Il n'a apparemment pas eu le droit à la parole. Mais il était là, quoi. Mm-hmm. Vous voyez,
oui, mais il a le pouvoir. Donc,
bon, en tout cas, on est obligé de conclure, mesdames, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend derrière vous. Donc, merci mille fois pour votre intervention à l'une et à l'autre, Delphine et Cécile. Et puis, bien évidemment, on espère qu'à l'approche de cette élection présidentielle, peut-être qu'on va avoir de nouveaux projets réformant la justice et qui verra cette justice mieux fonctionner, en tout cas être un peu plus fluide. Merci mille fois à toutes les deux pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1 et puis courage à toutes les deux parce que vous en avez besoin et vous allez encore en avoir besoin. Au revoir mesdames.
Merci Olivier, au revoir.